à toutes et à tous. Je suis Toufik Guednard, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des versions des mots sur CLAB 88.4 FM. Une heure consacrée à l'exploration littéraire, aux émotions fortes et aux rencontres inspirantes. Un grand merci à Ossine dans la technique. Prenez place, on commence tout de suite. Cette émission avec Jacques Aranda, le roman de Gaël Faye, récemment récompensé pour le prix Renaudot 2024. Ce récit poignant plonge dans le Rwanda entre souvenirs intimes et mémoire collective. Gaël Faye, avec son écriture sensible et poétique, raconte les défis de l'identité et de la résilience face aux cicatrices de l'histoire. Une œuvre bouleversante qui mérite toute notre attention. Ensuite, nous rendrons hommage à Omar Mokhtar Chahlel, figure incontournable de la littérature algérienne contemporaine, disparu en 2016. Écrivain, poète et homme de théâtre, il a consacré sa vie à l'enfance et à la jeunesse en difficulté. Il croyait en la puissance de la culture pour transformer des vies. Parmi ses œuvres marquantes, Le Fugitif et Tel Rouda illustrent les luttes contre l'injustice et les sacrifices pour la dignité. Omar Chahlel laisse derrière lui un héritage littéraire précieux, une source d'inspiration pour les générations futures. Enfin, nous terminerons avec une rencontre enrichissante avec Margot Hubert de l'association Rue des Livres à Rennes. Ils partageront leur vision de la lecture comme un moyen d'unir les gens et de rendre la culture accessible à tous. Leur passion et leur engagement pour promouvoir la littérature en font des acteurs essentiels du paysage culturel. Restez avec nous, Évasion des mots, c'est parti.
Attrape les cibles du peu, on t'attarde, il s'échappe déjà. Il faut que phrase à l'autre, une pensée au silence, une virgule trébuche. Et voilà tout le sens qui déraille. Barrage froissé, brisé, déchiré. Les idées tombent comme des feuilles mortes. Mais c'est des feuilles, des ailes, peut-être des plumes ou des morceaux de verre qui brillent, qui coupent. Évasion des mots, on danse, qui s'embrouille, se perd, se retrouve, se repère comme un fou dans un labyrinthe de sable. Les bruits d'un mot qui tombe dans l'oubli ou dans la mer, qui sait. Et si les mots étaient des échos d'âme, des échos du vide. Le vent emporte des phrases qui n'ont jamais été commencées, des rêves que personne n'a osé écrire. C'est un livre qui ne finit jamais, car chaque page s'envole avant même d'être lue. Papillon ou cyclone qui décide de toi à moi, les mots eux-mêmes s'évadent. Des montagnes de phrases qui s'écoulent, des rivières de lettres.
Nous allons tout d'abord mettre en lumière un roman qui a marqué cette année, Jacques Aranda de Gaël Faye, lauréat du prix Renaudot 2024. Gaël Faye est bien plus qu'un écrivain. Il est également compositeur et interprète, un artiste dont la double culture franco-rwandaise enrichit chaque création. Né en 1982, il grandit entre le Rwanda et la France, et cette expérience nourrit profondément son œuvre. Son premier roman, Petit Pays, avait déjà captivé par son regard sensible sur l'enfance et l'exil. Avec Jacques Aranda, il confirme sa stature d'auteur incontournable. Dans son roman, Gael Faye nous emmène au Rwanda, terre de ses origines. Le titre fait référence au jacaranda, cet arbre aux fleurs violettes, symbole de mémoire et d'espoir dans la culture rwandaise. Le récit se déroule après le génocide de 1994 et suit plusieurs générations d'une famille confrontée à l'héritage de cette tragédie. Ce roman explore la quête de reconstruction et de compréhension, dans un pays marqué par le passé mais tourné vers l'avenir. L'écriture de Faye, à la fois précise et émotive, dépeint avec justesse les épreuves et les liens qui unissent ces personnages. Ilias, le personnage principal, retourne au Rwanda après des années d'exil en France. Ce voyage est autant une quête intérieure qu'un retour aux racines. Jeanne, sa mère, incarne la force des femmes qui portent la mémoire et la dignité malgré les épreuves. Antiwali, son cousin, porte les marques du conflit mais lutte pour retrouver un équilibre. Sarah, jeune et pleine de vitalité, représente une nouvelle génération tournée vers l'avenir. Et enfin, le vieil homme sous le jacaranda, témoin silencieux des souffrances passées, figure emblématique de sagesse et d'espoir. À travers eux, Jacaranda offre un portrait intime et universel de la reconstruction, en explorant les liens familiaux et les défis de la transmission. Le roman a été largement salué pour sa capacité à capturer l'essence d'un Rwanda qui cherche à se relever. Cependant, certaines critiques ont pointé un style parfois trop explicatif, où les émotions sont davantage décrites qu'incarnées. Malgré cela, Jacaranda demeure un récit puissant et mémorable, une œuvre qui nous interroge sur la mémoire, le pardon et la capacité de l'humanité à avancer malgré les blessures. C'était le roman Jacaranda de Gael Faye, publié en 2024 aux éditions Grasset, qui a été récompensé par le prix Renaudot.
Le temps glisse, il file entre les doigts comme de l'eau qu'on ne peut jamais retenir. Tu essaies de le saisir, de l'attraper, mais c'est toujours trop tard. Chaque seconde est une vague qui se brise avant que tu ne la sentes vraiment. Hier, aujourd'hui, demain, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Des mots, des illusions, des bornes imaginaires pour donner un sens à ce qui n'en a pas vraiment. Parce que le temps ne s'arrête pas, il ne t'attend pas, il ne te regarde même pas. Il passe toujours sans retour, tu crois avoir vécu un instant. Mais cet instant t'échappe déjà, il est ailleurs maintenant. À peine un ressenti, il disparaît dans une brume sans fin. Et toi tu restes là, à chercher ce qui t'a glissé entre les mains. Le temps fuit, et toi, toi tu cours derrière lui. Tu cours, mais tu n'avances jamais. Chaque pas te rapproche de quelque chose qui n'existe pas, le présent, une chimère. À peine arrives-tu à l'effleurer, qui se transforme en passé, et le passé, il s'efface. Il se dissout dans les souvenirs, des fragments flous, des images usées par l'oubli. Est-ce que tu te souviens vraiment de ce qui a été? Ou est-ce seulement ce que ton esprit veut bien te montrer? Les souvenirs se tordent, se déforment, ils ne sont que des ombres du vrai. Mais tu t'accroches à eux, tu t'accroches à l'idée qu'ils te donnent du sens. Le temps fuit, mais toi, tu te figes dans des échos. Chaque minute passée est une page que tu ne reliras jamais. Chaque seconde qui s'éloigne est un trésor que tu as perdu, mais sans savoir que tu l'avais. Et demain, ce demain que tu attends, que tu prépares, ce demain qui te promet des milliers de possibles. Jamais rien possédé.
Imaginez Sétif, en Algérie, enveloppé d'un manteau blanc, ses rues et ses collines scintillantes sous la neige. Dans ce décor hivernal, Omar Mokhtar Chalel, silhouette en béret et manteau noir, se faufile avec détermination. Cet écrivain, poète et homme de théâtre, connu sous le nom de « Le Tigre », pour son allure imposante, a consacré sa vie à l'enfance et à la jeunesse sans difficulté. Né le 13 février 1946 à Sétif, Omar Mokhtar Chalel a grandi dans une ville riche en histoire et en culture. Dès son jeune âge, il se distingue par son engagement envers les autres, en particulier les jeunes en difficulté. Cette passion pour l'éducation et l'épanouissement des plus démunis l'a conduit à diriger l'Institut de formation professionnelle et la Maison de la culture de Sétif. Il a toujours cru en la puissance de la culture et de l'éducation pour transformer des vies et offrir des nouvelles perspectives. En tant qu'opposant au sein du parti de l'avant-garde socialiste, le PACS, après le coup d'État du 19 juin 1965, Omar a payé le prix fort pour ses convictions. Arrêté pour ses opinions politiques, il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Al-Harrach, puis à celle de Sétif. Ces expériences marquantes ont nourri son écriture, ajoutant une profondeur et une authenticité à ses récits. Par la suite, il a également connu la résidence surveillée à Annaba, mais son esprit indomptable n'a jamais été brisé. Sa carrière littéraire est marquée par des œuvres emblématiques qui résonnent avec la force d'un cri de liberté. Parmi ses livres notables, on trouve Le Fugitif, où il dépeint des luttes des opprimés. Chaque personnage luttant pour sa survie dans un contexte d'injustice et d'oppression. Ce récit vibrant met en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés ceux qui aspirent à la liberté, illustrant ainsi la quête incessante de dignité face aux contraintes du pouvoir. Tel Rouda, un autre de ses ouvrages, est un hommage poignant à la résistance. Utilisant le tubercule indigeste comme symbole de la dignité et de la lutte, Chalel évoque les sacrifices faits par les générations passées. À travers cette métaphore, il rappelle que même dans la souffrance et la privation, il existe une force qui unit les hommes et les femmes dans leur combat pour un avenir meilleur. Dans Kateb Yassine, l'homme libre, Chalel explore l'héritage d'un grand maître de la littérature algérienne. Il devient ainsi le messager de la pensée de Yassine, rendant hommage à la profondeur de sa poésie, tout en tissant un lien entre leur engagement commun pour la justice sociale et la liberté d'expression. Son écriture ne se limite pas à célébrer les grands noms. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste, celui de la revendication d'une identité algérienne forte et libre. Chaque livre d'Omar Mokhtar Chalel est une invitation à réfléchir sur les injustices, à se souvenir des sacrifices du passé et à embrasser l'espoir d'un avenir meilleur. Son style à la fois accessible et profond permet au lecteur de plonger dans l'histoire de son pays. Il parvient à capturer les émotions de ses personnages, nous faisant vivre avec eux l'intensité de leur lutte et de leur espoir. Chalel n'est pas seulement un écrivain. Il est un porte-voix de son époque, une conscience éveillée qui continue d'inspirer les générations futures, à revendiquer leur place dans l'histoire et à se battre pour leurs droits. Ses ouvrages sont des témoignages vivants d'une Algérie en quête d'identité, de dignité et de liberté. Omar Mokhtar Chalel nous a quittés le 14 mai 2016 à l'âge de 70 ans, laissant derrière lui un héritage littéraire et humain immense. Inhumé au cimetière de Sidi Haïdar, il repose dans la ville qu'il a vue naître. Ce lieu de mémoire est désormais le témoin d'une vie dédiée à la lutte pour la justice et la promotion de la culture algérienne. Son parcours nous rappelle que la littérature peut être un puissant vecteur de changement et que chaque mot écrit a le potentiel d'éveiller les consciences. Dans un monde où l'indifférence peut parfois l'emporter, l'œuvre d'Omar Mokhtar Chalel continue de briller comme un phare, nous incitant à ne jamais perdre de vue nos idéaux et à toujours défendre notre humanité. Son engagement envers les jeunes, son dévouement à la culture et sa détermination à dénoncer l'injustice font de lui une figure incontournable de la littérature algérienne contemporaine.
Le tigre se dresse majestueux, puissant sous le ciel de ce tigre éclatant. Sa plume, son arme, sa voix, un éclat, un cri pour les opprimés au combat. Sous son béret, un monde en
chaque mot une graine de révolution. Dans ces récits, des rêves de liberté, des vies brisées, des âmes révoltées. Le fugitif chante les luttes oubliées. Tatouda, hommage au cœur sacrifié. Chaque poème, chaque ligne écrite résonne comme un chant, un cri qui s'invite. À ces types, il façonne de des ponts d'espoir. Pour les jeunes, il éclaire les soirs. À l'institut, dans la culture, il bâtit des espaces de rêve, des lieux d'infini. Le tigre rugit face à l'injustice. Ni les barons, ni l'exil ne l'immobilisent. Emprisonné, surveillé, mais jamais courbé, sa plume de Burly ouvre son esprit insoumis. Au marche à la message de la dignité. Tes mots sont des étoiles dans l'obscurité. De ces tifas là-bas, ton héritage demeure. Un phare pour l'avenir, un éclat dans nos heures. Chaque ligne écrite résonne comme un chant, un cri qui s'invite. Le fugitif chante les luttes oubliées. Tagouda, hommage au cœur sacrifié. Chaque poème, chaque ligne écrite résonne comme un chant, un cri qui s'invite. À ses types, il façonne des pots d'espoir. Pour les jeunes, il éclaire les soirs. Dans la culture, il bâtit des espaces de rêve, des lieux d'infini. Le tigre rugit face à l'injustice. Ni les barons, ni l'exil ne l'immobilise. Emprisonné, surveillé, mais jamais couvé, sa plume demeure libre, son esprit insoumis. On marche à la message et de la dignité. Tes mots sont des étoiles dans l'obscurité. Un éclat dans nos heures. Sous la terre de Séti, tu reposes en paix. Mais ton rugissement ne s'éteint jamais. Puisse ton combat vibrer dans chaque âme, toi. Le tigre porteur d'un éternel flambeau, une flamme.
En 2013, à Rennes, j'ai eu l'immense privilège d'interviewer Omar Mokhtar Chalel. Accompagné d'Emine et de Ramzi, nous avons partagé un moment unique avec cet écrivain. Lors de cet échange, il nous a ouvert une fenêtre sur son parcours, ses combats et son amour pour Séti. Ce fut un moment d'une rare intensité, mêlant profondeur et émotion, qui résonne encore aujourd'hui. Je vous propose de revivre cet entretien marquant avec Omar Mokhtar Chalel, un homme dont la plume et les convictions continuent d'inspirer bien au-delà de sa disparition. Écoutons ces mots. Porteur d'humanité et de vérité.
Ramzi, Emine et Toufik sont là pour vous présenter un écrivain algérien de renommée nationale et internationale, Omar Mokhtar Chalel. Bonsoir.
Très bonsoir.
Messakhir, c'est ce qu'on dit en Algérie.
Oui.
Vous êtes venu de loin, hein, je suppose. Vous êtes...
Non, enfin, je suis venu de Lorraine, hein, c'est tout.
De la Lorraine. Oui. Quel temps il fait à la Lorraine?
Ce matin, quand j'ai quitté Forbach, il neigeait. Il y avait une tempête de neige. Donc, hein, quand on passe de moins 9 à 10, c'est un changement quand même. Hein.
Alors, nous allons présenter l'écrivain Omar Mokhtar Chalel pour nous inviter. Qui est Mokhtar Omar Chalel?
Un scientifique. Bah, écoutez, moi, je suis... Je viens donc de Séti, une région qui est connue pour par la poésie populaire. D'ailleurs, il y a un genre d'expression là-bas qu'on appelle le Sraoui. C'est de la poésie chantée, mais qui n'a pas besoin d'apport d'instruments de musique. C'est uniquement la voix de l'homme. Et puis c'est les hautes plaines, parce que finalement, contrairement à ce qu'on dit on a qualifié la région de haut plateau, alors que c'est des hautes plaines qui étaient riches, qui sont réputées pour leur richesse en céréales. Et ce qui fait que la poésie aussi a une grande place, notamment après un événement historique majeur du siècle dernier, c'est-à-dire du XXe siècle, les massacres du 8 mai 45, qui sont restés gravés dans la mémoire des gens. Et cette poésie dont je parlais a été nourrie en grande partie par ces massacres, par la terrible répression qui s'en est suivie et qui a vu plus de 40 000 morts parmi la population algérienne, qui a vu aussi des gens déportés dans les îles du Pacifique, qui a vu aussi beaucoup d'internés qui ont passé, d'ailleurs il y a certains militants nationalistes qui sont restés de 45 à 54 à 62 jusqu'à l'indépendance en Tôle. Donc je ne fais pas exception donc à cette génération. J'ai été nourri par cette poésie, c'est un peu naturel que je suis un peu venu vers la littérature. Et la littérature, d'abord à la poésie, hein, parce que le premier ouvrage qui a été d'ailleurs préfacé par Kateb Yassine, c'est Le Proscrit, c'est un recueil de poésie qui reprend un peu les problèmes de la vie de tous les jours, qui reprend avec les mots simples de la vie, comment les gens vivaient sur ces hautes plaines. Et une deuxième partie, c'est des chants de lutte, hein, de 45 et pendant la guerre de libération, etc. Bon, et par la suite, bon, je suis allé, j'allais dire naturellement, mais dans je dirais normalement, vers l'écrit romanesque. Et j'ai fait une tentative d'écrire, d'aller vers le roman historique en m'appuyant sur l'écrit romanesque. Pourquoi ? Pour la simple raison, d'abord, que je ne suis pas historien, donc pour aller dans le sens de l'écriture de l'histoire, il faut être armé, un historien est formé pour ça. Et puis, je pense que l'écriture romanesque est aussi, on peut dire l'histoire avec les mots simples de la vie. Voilà en gros, hein, qui je suis. Pour revenir à la bibliographie, il y a Le Proscrit donc, et puis j'ai le Fugitif, qui c'est un roman. J'ai eu un essai où il y a aussi un peu de romans aussi à l'intérieur, un essai sur Kateb Yassine, l'homme libre. Kateb Yassine, que j'ai connu et avec lequel j'ai partagé beaucoup de choses, un parcours de lutte politique et puis de grande espérance pour notre peuple. Ça a été en quelque sorte aussi, notre rencontre a été aussi un motif pour moi en plus pour aller dans le sens de l'écriture. Hein. Voilà.
Revenir un petit peu au roman, moi je souhaiterais, ce qui interpelle tous les lecteurs, c'est ce titre en fait, Tel Gouda, qui est un terme méconnu, je crois, de la jeunesse, de toute la nouvelle génération.
Oui, Tel Gouda, quand vous aurez le livre entre les mains, la page 4 l'explique, on l'explique dans la page 4. Mais je peux dire qu'est-ce que c'est. Tel Gouda, c'est un tubercule indigeste qui croît en période de grande sécheresse, et uniquement en période de grande sécheresse. Et bon, ce qu'il faut retenir, c'est que même les animaux le refusaient. Refusaient de le manger. Jusqu'à nos jours, il y a des populations dans la région de Bouga qui continuent à l'utiliser comme lessive. Pourquoi ? Parce que pour blanchir, surtout les burnous. Donc il y a des produits chimiques, certainement. Là, je ne sais pas, parce qu'il faut peut-être consulter un pharmacien qui, lui, à partir du nom scientifique, pourrait donner la composition. Donc, Telgouda, c'est l'expression aussi de la misère, de la grande misère que vivait le peuple algérien dans les années 40. Et précisément en 45, parce que 45, ça a été une année qui a été qualifiée par les petits gens, par le petit peuple, comme une année des sept malédictions. Bon, d'abord, il y a eu la sécheresse qui persistait depuis 3 ou 4 ans, c'est pas depuis 42, et elle s'est aggravée jusqu'en 45. Hein. Donc, ce qui fait que. Il y a eu donc cette sécheresse-là. Il y a eu les maladies, les grandes maladies, le typhus, le choléra. Il y a eu les sauterelles, l'invasion des acridiennes. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu, à la fin de l'année, une terrible tempête de neige. C'était la clôture de la sécheresse. Enfin, il y a sept calamités comme ça. Et pour ne pas mourir de faim, tout simplement, la population terna, la population algérienne, était forcée en quelque sorte de manger. Donc c'est l'expression de la misère et de l'exploitation coloniale. Voilà, c'est, si on peut résumer. C'est, du moins, c'est comme ça que je l'ai résumé, moi. Hein. Voilà. Je sais pas, c'est... Oui.
Moi, je relève de votre parcours deux grandes figures de l'Algérie, Kateb Yassine et Benzine. C'est un hommage d'amis ou un travail beaucoup plus de mémoire pour la jeunesse, pour la nouvelle jeunesse?
Pour Kateb Yassine.
Kateb Yassine et Benzine, parce que Telgouda, c'est...
Oui, ça parle oui. De toute façon, c'est par devoir de mémoire. Hein. C'est le travail de mémoire, il faut le faire, parce que dans notre pays, malheureusement, on a tendance à oublier les hommes qui ont fait un peu l'histoire de ce pays-là, de l'Algérie, etc. Moi, de toute façon, pour ce qui est de Kateb Yassine, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un livre sur Kateb Yassine, pas sur l'œuvre de Kateb Yassine, parce que ici je pense qu'il y a des critiques littéraires qui ont fait beaucoup de boulot. Il y a eu Jacqueline Arnaud, par exemple, qui pour moi était une des spécialistes du texte katibien. Mais j'ai voulu éclairer certains aspects du personnage qui était, de mon point de vue, le personnage le plus controversé de la littérature algérienne. Il était, d'ailleurs, ce que je dirais tout à l'heure, il était cadenassé, étouffé, sa parole étouffée et sa libre pensée était cadenassée par ses adversaires. C'est un peu normal, hein, surtout quand on sait que ses adversaires étaient beaucoup plus dans le camp des obscurantistes, et de l'obscurantisme primaire. Hein. Primaire, parce que finalement, ça c'est un peu normal. Mais aussi, ses propres partenaires, ses propres fans, si tu veux, ses propres admirateurs, l'ont mythifié. Chacun le voulait à la mesure de ses fantasmes. Et ça n'a pas servi un peu le personnage, parce que chez les jeunes générations, c'est-à-dire que chacun leur rapportait un son de cloche, voilà ce qu'il était, alors que des fois, c'était absolument loin de tout ça. Donc j'ai éprouvé le besoin d'éclairer certains aspects du personnage, méconnus pour moi, hein, méconnus, et c'est comme ça que j'ai écrit donc l'homme libre, Kateb Yassine, l'homme libre. Ça a été aussi le cas d'Abdelhamid Benzine, un grand homme aussi. Hein. Pourquoi ? Parce que pour moi, d'abord, un point commun avec Kateb Yassine, ils ont vécu ensemble les massacres du 8 mai 45. Ils les ont vécu. Ils ont subi la répression, ils ont été emprisonnés, ils ont subi la torture ensemble. Et Abdelhamid Benzine, qui était un peu l'aîné de Yassine, de 3 années, et les deux sont aînés mes aînés d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire comme quoi, dans l'âge, les générations, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne nous a pas empêchés de faire un long parcours ensemble. Donc, Abdelhamid, pour moi, ça a été le patriote, le militant nationaliste et le militant du mouvement ouvrier qui a été au confluent de toutes les luttes du peuple algérien, de son peuple. Il est passé, il a fait la Zitouna. Hein, la Zitouna. Pourquoi après 45, quand il a été exclu en seconde, etc., il a été à faire la Zitouna. Donc, c'était déjà, en quelque sorte, une sorte d'option politique. Et par la suite, il est passé au PPA, surtout après 45. Où il était à Sétif, au collège de Sétif, il était responsable de la cellule du collège Albertini, collège colonial Albertini. Et par la suite, il a continué dans le PPA clandestin. Et par la suite, quand il y a eu la création du MTLD, c'est-à-dire après l'amnistie décidée par le pouvoir politique français, l'amnistie qui a suivi un peu les massacres et puis la répression de 1945. Il est passé donc au MTLD et il a été délégué par le parti en France pour s'occuper des ouvriers immigrés qui étaient surtout syndiqués dans la CGT. Hein, parce qu'à l'époque, la CGT, c'est le syndicat jusqu'à maintenant, moi je pense. Hein, c'est un des principaux syndicats, absolument. Oui, ça, c'est depuis Jean Jaurès. Depuis Jaurès. Et donc, il fallait écrire aussi quelque chose sur Abdelhamid, parce que les jeunes générations ont besoin de ce genre de modèle, de connaître ce genre d'homme pour mieux aimer le pays, pour mieux aimer le pays et l'humanité, parce que finalement, lui, auprès de la classe ouvrière française, il a compris aussi, il a eu une conscience de classe. Avant, il a eu la conscience nationale, et par la suite, il a eu la conscience. D'ailleurs, il y a eu une anecdote quand il a été voir Moussa El Hadj, qui est le père fondateur du mouvement national. Hein. Bien que dans le giron du PCF à l'époque, en 24, l'étoile noire africaine, c'était dans le giron du PCF. C'était grâce un peu aux communistes français de l'époque qu'il y a eu ce mouvement de libération, hein. Ce mouvement politique contemporain. Donc, quand il a été voir Moussa El Hadj, après, en 1953, Moussa El Hadj, qui était en France ici, en résidence surveillée, pour attirer son attention que le programme du parti, le PPA, le Parti du Peuple Algérien, souffrait d'une grande lacune, c'est-à-dire la prise en charge des préoccupations de la classe ouvrière. Que lui répond Moussa El Hadj? Il lui a répondu d'une manière très agressive et très ironique. Je le dis en arabe et je vais le traduire en français. Alors, Abdelhamid, les communistes t'ont eu, en quelque sorte, t'ont bouffé. Hein. Sur ce, Abdelhamid, et ça c'est lui qui l'a raconté, sur ce, il s'est levé parce qu'il avait un grand respect. Parce que Moussa El Hadj, c'était une aura, c'était une icône, en quelque sorte. Même s'il avait ce respect, il a été tellement bousculé qu'il s'est levé. Il est sorti, il a fermé la porte, il est descendu à Marseille pour prendre le bateau sur Alger et rejoindre Alger républicain, parce qu'il y avait les camarades de la CGT qui lui ont dit, bon voilà, il y a le journal, tu ne vas pas aller travailler, si tu n'as pas tes trucs pour aller chez les dockers, il faut travailler dans le journal. Et c'est comme ça qu'en 53, il a rejoint donc le PCA. Il a rejoint le PCA. Et l'autre caractéristique de ce personnage fabuleux, c'est que après le 1er novembre 1954, qui a vu une poignée d'hommes faire quelque chose de jusqu'à maintenant. Il y a toutes les critiques, tous les hommes politiques, qu'ils soient algériens ou autres, disaient c'est pas possible, ça c'est de l'aventure. Bon, ils ont fait quand même quelque chose qui a non seulement libéré l'Algérie du colonialisme, mais qui a aussi contribué à l'éveil de la conscience nationale en Afrique et à la consolidation du mouvement.
Nous allons un petit peu t'interrompre. Nous allons passer à une dernière question, mais avec une réponse assez rapide, parce que là, vite fait.
La dernière question, ça serait, selon vous, quelle serait la Telgouda de la jeunesse algérienne actuelle?
Moi, je ne souhaite pas du tout de Telgouda pour la jeunesse algérienne, parce que la Telgouda, c'était l'expression de la misère et de l'exploitation coloniale. Bon, ce que je souhaite à nos jeunes, aux jeunes générations d'aujourd'hui, mais disons aux jeunes du monde, on a besoin de beaucoup d'amour. Aujourd'hui, chauffe. Dans le monde actuel, des millions, je dis bien des millions de gosses crèvent de faim parce qu'ils n'ont pas de lait. En Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et au même moment, en Europe, en Amérique, des millions d'hectolitres sont déversés dans les rigoles parce qu'il y a un surplus de qui touche à l'économie capitaliste. Et ça, je souhaiterais que les jeunes soient le levain, les jeunes dans le monde, pour qu'il n'y ait plus de misère, pour que l'homme puisse vivre sa vie, qu'il n'y ait plus de misère, qu'il n'y ait plus d'exploitation. Voilà ce que je souhaiterais, à ce que le jeune d'aujourd'hui devienne et voilà. Combatte. Moi, personnellement, il y a deux jours, je viens d'avoir 67 ans. Je reste optimiste.
Bon anniversaire.
Nous te souhaitons un bon anniversaire, Omar. Merci d'avoir répondu franchement à nos questions.
La plume dans sous les flambeaux de ces tifs au monde entier. Tes vers chantent la liberté. Dans les ruelles aux ombres glacées, tu dessines des rêves à libérer. Chaque mot une arme, une vérité, un combat pour les cœurs opprimés. Ouh, 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 ouh. Tigre des mots, ta plume danse sous les flambeaux de ces tifs au monde entier. Tes vers chantent la liberté. Telgouda, symbole de résistance, le fugitif cri de l'espérance. Sous ton béret, des songes brûlants, un héritage pour tous les temps.
l'émission Évasion des mots, a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Margot, directrice de l'association Rue des Livres, et Hubert, vice-président. Bienvenue dans cette émission.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de l'histoire et des activités de l'association ainsi que des préparatifs du prochain festival qui se déroulera en mars 2025. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de l'association Rue des Livres ?
Bien, l'histoire, c'est l'association a été créée en 2008, je crois.
Oui.
Plusieurs bénévoles du quartier de Maurepas qui ont ressenti le besoin de créer un salon, un festival du livre, s'adressant dans un premier temps aux habitants du quartier de Maurepas. Et puis cette association, au fil des années, a pris de l'importance, est devenue un gros festival. Le principal festival du livre en Bretagne, après Étonnant Voyageur, bien entendu. Et un festival qui draine environ 8000, lors de la dernière édition, 8000 visiteurs sur 2 jours.
Quels sont les objectifs de cette association en particulier ?
Faire connaître la littérature, développer la littérature, la lecture, bien entendu. Donc l'association ne fait pas que le festival, Marco vous en parlera, mais tout au long de l'année, il y a aussi des manifestations autour de la lecture dans les médiathèques et auprès des jeunes. Et puis de faire connaître des auteurs régionaux, nationaux, et d'essayer de faire un mixte intelligent entre des auteurs connus et des auteurs qui mériteraient de l'être.
Marco, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, nous, notre activité se partage entre, bien sûr, la préparation du festival qui prend la majorité de notre temps, mais on a aussi un vrai volet d'action culturelle à l'année, là, essentiellement sur le quartier de Maurepas, à destination des familles et de la petite enfance. On a ces deux activités, en fait. Tout au long de l'année, on travaille sur le festival, mais on propose aussi des choses sur le quartier de Maurepas, avec les écoles, avec la bibliothèque, au sein du pôle associatif. On a à l'année le comité de lecture, qui regroupe une vingtaine de lecteurs passionnés aux avis très différents. L'idée, c'est de sélectionner les livres et les auteurs qui seront invités au festival et de partager nos coups de cœur de lecture, que ce soit en littérature, en BD, en littérature jeunesse ou ado.
Justement, en parlant de ce festival, quelle sera la nouveauté de ce festival 2025?
Alors, ce sera la 17e édition. Elle aura lieu les 15 et 16 mars 2025 au Cadet de Bretagne. Le centre du festival reste le Salon du Livre, qui est la vitrine du dynamisme local, donc avec essentiellement des auteurs, alors quand on dit locaux, c'est bien sûr Rennais, mais de toute la Bretagne, et les mettre en avant le travail des maisons d'édition qui sont très nombreuses à Rennes et aux alentours. Donc ça, c'est le centre névralgique du festival, mais ensuite, tout autour, on propose des animations autour du livre, de la lecture et de l'écriture, donc avec l'invitation d'une quarantaine d'auteurs, des rencontres, des spectacles, des animations jeunes publics, des lectures, des expositions, des ateliers et des balades littéraires. Donc gros programme.
Vous avez une idée des auteurs que vous allez inviter ou pas encore ?
On commence à avoir une franche idée des auteurs, mais on va dévoiler tout ça au mois de janvier, on travaille autour d'une thématique et puis on travaille aussi sur notre visuel 2025, mais on va commencer à dévoiler tout ça en janvier au fil du temps et pour l'instant on a ouvert en fait les inscriptions pour le Salon du Livre pour les éditeurs, donc ça c'est vraiment la première chose qui est lancé officiellement, et puis ensuite on donnera les infos sur le festival à partir de janvier.
Comment sélectionnez-vous les invités ou les auteurs à votre festival?
Via le comité de lecture.
C'est un peu une originalité, parce que peu de festivals, peu de salons littéraires sélectionnent les auteurs de cette manière. Nous, ce sont les membres du comité de lecture qui, tout au fil de l'année, lisent des livres qui certains nous sont envoyés par en service presse par les maisons d'édition. Les membres du comité de lecture les commentent. Chaque réunion du comité de lecture donne lieu à l'analyse d'un livre lu par, par le membre. Et c'est comme ça que l'auteur est choisi lorsqu'il a recueilli le coup de cœur de maximum des membres du comité de lecture. Puis, il faut aussi que son livre s'inscrive dans la thématique. Hein. La thématique, je pense qu'on peut la dévoiler, là. Non, on ne la dévoile pas. En janvier. Bon,
en janvier.
On n'aura pas l'exclusivité.
Absolument pas. L'année dernière, la thématique, c'était les racines.
D'accord. Donc, vous avez parlé tout à l'heure qu'en dehors du festival, vous faites autre chose. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée sur ce que vous faites en dehors de ce festival ?
Alors, on a plusieurs activités. On a beaucoup de choses qui sont pas forcément visibles du grand public, qui est un travail avec les scolaires, notamment avec les scolaires du quartier. Donc là, on a le plaisir d'organiser deux résidences avec des auteurs illustrateurs qui vont venir au long cours dans une classe. Et on est content parce que du coup, la restitution pourra se faire au moment du festival. Donc, on aura un rendu et le grand public pourra voir ce que les enfants ont fait. Donc ça, c'est une partie un peu souterraine, mais qui est très importante pour nous. On propose 3-4 fois par an un goûter-compter à destination des familles. Ça se passe dans le hall du pôle associatif Marc Baudet, où sont nos bureaux. Et le prochain, ça va être le 4 décembre, un spécial fête de fin d'année. Toutes nos propositions sont gratuites, ouvertes à tous. Donc là, on communiquera bientôt dessus. On organise aussi depuis le mois de mai pour les adultes. En fait, on voulait avoir un fil rouge tout au long de l'année sur les rencontres avec des auteurs. Parce qu'on a beaucoup d'auteurs pendant 2 jours et ensuite on avait l'impression que Rudélie faisait rien pendant le reste de l'année, mais en fait si, on travaille toute l'année. Et du coup, là on organise la troisième rencontre. C'est des rendez-vous qui s'appellent Une heure avec un auteur. Au mois de mai, on a accueilli Mokhtar Hammoudi. Au mois de juin, on a accueilli Caroline Hinault. Et donc le jeudi 21 novembre à 18h30 au Cadet de Bretagne, on accueille l'autrice Sophie Berger pour son premier roman « Bande brume » qui a été publié chez Gallimard. C'est un très beau livre. Il y a un vrai coup de cœur du comité de lecture et donc elle va nous faire le plaisir de venir en parler. Et elle propose à la suite parce qu'elle a un univers, en fait, elle est créatrice sonore à côté de son travail d'écriture. Et donc elle va proposer, suite à la rencontre, une lecture sonore, une création originale de sa part autour de son livre. Donc, ça va être un moment intéressant. Donc, ça, c'est dans 15 jours. Enfin, du coup, c'est le 21 novembre à 18h30. C'est gratuit au Cadet de Bretagne.
Voilà.
Okay. Des exemples de propositions qu'on peut faire. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a un comité de lecture ado avec la bibliothèque de Morpa. Il y a des lectures en crèche tous les mois. Enfin, voilà.
D'accord. Comment les habitants du quartier participent-ils à vos activités et à l'activité de votre association ?
Mais alors, on a des participants de notre comité de lecture qui sont des habitants du quartier. Donc ça, on est vraiment contents. Après, nos propositions jeunes publics sont à destination essentiellement des familles du quartier. Donc c'est vrai que c'est via les partenaires, via les écoles, via le centre socioculturel des Longprés, le centre social, la bibliothèque. On travaille vraiment avec beaucoup de partenaires pour toucher au mieux ces familles. Parce que nous, on n'a pas un lieu d'accueil pour les familles. Donc on travaille beaucoup avec les autres, en faisant justement les propositions que je pouvais évoquer. Donc voilà, et puis on communique beaucoup aussi dans le quartier sur nos actions, même le festival, et puis là par exemple la rencontre au Cadet de Bretagne le 21 novembre, on fait vraiment une communication dans le quartier, au plus proche, avec des petites affichettes, des distributions de flyers dans les commerces. On travaille aussi avec la librairie L'Astrolabe, qui est nouvellement implantée métro Gailleul. Et donc, on travaille vraiment avec eux et c'est notre librairie partenaire sur les rencontres Une heure avec.
Comment le public a-t-il évolué au fil des années ?
Alors, évolué, je ne sais pas, mais le public de Rue des Livres est un public relativement populaire. C'est-à-dire que, surtout le dimanche, ce sont des familles qui viennent, des familles entières avec les enfants. et qui sont dans les travées de la rue des Livres, dans les rues de Livres. Donc 8000 personnes sur 2 jours. Le samedi, c'est un peu plus, je dirais, les gens peut-être de l'extérieur du quartier qui viennent, des gens qui sont un petit peu déshabitués des festivals de livres, qui viennent rencontrer les auteurs pour discuter sur des auteurs précis. Mais on s'aperçoit que tout au long du week-end, il y a pas mal de familles, et surtout le dimanche. Donc, il a évolué en connaissance, en nombre, en importance, bien sûr, mais dans sa sociologie, je dirais, pas tellement. Il reste un festival populaire.
Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de ce festival?
Alors, dans l'ordre, la liste exhaustive.
Tout se fait dans le plaisir et dans la joie.
Voilà. Alors, dans la joie, c'est vrai, mais il y a des difficultés.
Oui,
après.
Oui, bien sûr.
On a une difficulté aussi qui est liée, on va dire, à notre implantation, qui est aussi une source de joie. Mais voilà, l'implantation dans notre quartier, on sait que c'est un public qui est plus difficile à capter. C'est un public qui est quand même assez éloigné du livre et de la lecture. Donc, on a un vrai travail de médiation à faire. Et donc là, c'est un travail de dentelle d'aller chercher les personnes quasi une par une. Voilà, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait du public de Maurepas qui vienne à notre festival et à nos activités. Après, une de nos missions, c'est aussi de faire venir les gens à Maurepas pour un événement festif, qu'on parle aussi de Maurepas pour autre chose que les derniers articles dans Ouest France. Voilà, donc nous, c'est une de nos missions, faire pour les habitants de Maurepas, mais faire venir les gens de Rennes, du centre-ville, de la métropole, à Maurepas pour un événement festif, populaire. Alors, dans les difficultés rencontrées, sans développer, comme tout le monde, et puis dans le monde de la culture, on a des difficultés financière, voilà, à boucler. On n'a pas, même si on a la chance d'être tout à fait soutenu, toutes les charges ont énormément augmenté. Et puis on veut rémunérer les gens correctement, les auteurs, les prestataires, etc. Donc, le festival est un événement qui coûte cher. Et voilà, et donc on a des restrictions budgétaires. On ne peut pas malheureusement faire tout ce qu'on aimerait faire. Donc ça, c'est un peu notre cheval de bataille au quotidien. Et puis... c'est essentiellement ça, hein, et puis
oui.
C'est l'ère de la guerre.
Alors, je dirais quand même que le festival repose aussi sur la mobilisation d'une, ouais. Aujourd'hui, 70 bénévoles.
À 90, mais ça, c'était pas
bénévoles.
Dans la liste des difficultés.
Non, mais c'est intéressant de...
Ah oui.
Voir que des gens se mobilisent pour travailler. Alors, je suis venu à penser effectivement aux bénévoles parce que... la mise en place et le rangement se fait par des bénévoles et c'est pas une difficulté, ça se fait effectivement dans la joie, mais c'est un travail sérieux quoi.
Ouais.
Pendant on est fatigué le dimanche soir. Voilà.
Alors comment voyez-vous l'avenir justement du festival rue du Livre?
Bah, l'avenir...
Très bien, comme tout, dans cette ambiance morose du mois de novembre.
Je parlais de 8000 visiteurs, on voudrait qu'il y en ait encore plus à venir, ouais. Et que ce festival soit plus connu, que les gens, qu'on prenne des personnes d'un peu partout, pas seulement du quartier, ce qui se fait déjà, mais bon, encore en plus grand nombre, hein, et voilà, et que notre festival est... soit connu, voilà, et attire du monde. Et alors l'année dernière par exemple, on a innové en ayant une librairie de manga présente avec un petit déjeuner manga le dimanche matin. Donc là aussi on a ouvert la porte à des jeunes, très jeunes même, parce que ce sont des livres qui se lisent beaucoup, y compris chez les ados d'ailleurs.
Dire quelque chose?
Oui, notre objectif, en fait, nous, on travaille toute l'année pour proposer un festival le plus intéressant et ouvert à tous possible. Donc, effectivement, notre objectif, ce serait qu'il y ait encore plus de gens qui participent à ce qu'on a organisé tout au long de l'année. Mais ça, c'est un objectif.
Justement, qui sont vos principaux partenaires?
Alors, on a des partenaires financiers. qui nous accompagne et sans qui on ne pourrait pas ni faire le festival ni vivre tout au long de l'année. On a aussi des partenaires en nature. On travaille avec l'hôtel Mercure, avec des pépiniéristes, avec le Super U de la rue Tougère. On a aussi des partenaires qui nous accompagnent historiquement et qui nous aident à faire la meilleure proposition possible pour les auteurs, les professionnels et puis pour le public. Donc là, on a de la chance d'être soutenu. Après, comme toute structure culturelle, on est maintenant en recherche de mécénat. Et ça, c'est un point qu'on a développé, sur lequel on travaille, mais qui n'est pas évident. Et puis, tout le monde le fait. donc voilà, il va falloir se démarquer, mais c'est un de nos objectifs.
Alors, ma dernière question, l'avant-dernière, comment les gens peuvent-ils s'impliquer et vous aider dans vos projets ?
Alors nous, on a des appels à bénévoles tout au long de l'année parce que les bénévoles peuvent bien sûr se mobiliser sur les deux jours du festival, mais aussi toute l'année pour nous aider dans nos actions, sur par exemple les lectures en crèche ou nous aider à organiser les goûters, les rencontres. Voilà, il y a plein de travail sur le festival, mais pas que les deux jours, il y a aussi un travail en amont. Il y a plein de choses en communication. Et du coup, on a un référent, un chargé des bénévoles qui est joignable tout au long de l'année par mail et par téléphone. Et donc, les personnes intéressées peuvent le rencontrer et puis il orientera selon les goûts des gens, leur disponibilité, leurs envies. Voilà, donc en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui est chargé et qui chouchoute nos bénévoles parce qu'on a vraiment besoin de nos bénévoles et on en prend soin. Sur le site internet, sur le site de la... Voilà, alors c'est festival-rudelif.org et on a une rubrique devenir bénévole. Autrement, on a une adresse contact@rudelif.org. Voilà. Et on est derrière cette adresse, ce n'est pas une machine et on répond aux gens du mieux qu'on peut.
Merci Margot, merci Hubert. Un grand merci de nous avoir accordé un moment... crucial pour présenter Festival de Rue des Livres dans Évasion des Mots. Nous avons hâte de retrouver l'association Rue des Livres et de découvrir le festival qui aura lieu
le 15 et 16 mars 2025 et on peut se reparler avec plaisir en janvier et février quand on aura toutes nos informations à vous dévoiler.
Merci encore pour votre présence et pour avoir partagé votre passion.
Merci.
Et voilà, notre voyage littéraire touche à sa fin. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous sur Évasion des mots, ici sur CELAP 88.4 FM. J'espère que ces œuvres vous ont donné envie d'explorer de nouveaux horizons littéraires et de plonger dans des récits aussi inspirants qu'émouvants. Un grand merci à Hussein Zerar pour la technique et aussi au groupe Les Belles Sonnes pour les morceaux chantés, joués et spécialement choisis pour nous accompagner aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle escapade littéraire, toujours riche en émotions et en découvertes. En attendant, continuez à explorer et partager ces livres autour de vous. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt dans Évasion des mots.
Wandering souls driven by pain, leaving everything behind, seeking gain. Across deserts, through turbulent seas, searching for refuge in a world that's